Chapitre 9. Lydgate, ce soir-là, parla de Mrs. Casaubon à Miss Vincey et appuya avec une certaine énergie sur le sentiment profond qu'elle paraissait avoir pour cet homme solennel, absorbé par l'étude et de 30 ans plus vieux qu'elle. « Elle est dévouée à son mari, c'est naturel, » répondit Rosemonde, faisant voir par là que le dévouement était pour elle une conséquence nécessaire du mariage. Et cette idée parut à l'homme de science la plus jolie qu'une femme pût exprimer. Mais Rosemonde, pendant ce temps, songeait que ce n'était pas chose si mélancolique d'être châtelaine de Lowick avec un mari menacé sans doute d'une mort prochaine. « La trouvez-vous très jolie ?»« Elle est certainement belle, mais je n'y ai jamais pensé, » dit Lydgate. « Ce serait, je suppose, contraire à votre profession, » dit Rosemonde, dont le sourire laissa voir ses fossettes. Mais comme votre clientèle s'étend, l'autre jour vous avez été appelé chez les Chatham, maintenant chez les Casaubon. Oui, mais en vérité j'aime moins à soigner ces malades-là que les pauvres gens. Il y a moins de variété dans les cas. Il faut supporter de leur part bien plus d'embarras et écouter respectueusement débiter des sottises. Pas plus qu'à Middlemarch, dit Rosemonde. Et là au moins vous traversez de vastes galeries et vous respirez partout un parfum de rose. Vous dites vrai, mademoiselle de Montmorency, fit Lydgate, inclinant la tête vers la table, et soulevant du quatrième doigt le délicat mouchoir qui sortait du réticule de Rosemonde, comme pour jouir de son parfum, tout en la regardant avec un sourire. Mais cette agréable et parfaite liberté, avec laquelle Lydgate papillonnait autour de la fleur de Middlemarch, ne pouvait pas durer éternellement. Il n'était pas plus possible dans cette ville que dans une autre de s'isoler au milieu du monde, et deux jeunes gens flirtant continuellement ensemble n'avaient aucun moyen d'échapper aux embarras divers, aux charges, aux coups, aux chocs et aux poussées, au milieu desquels toute chose suit sa marche particulière. Tout ce que faisait Miss Vincey devait infailliblement être remarqué. Et peut-être était-elle en ce moment plus particulièrement encore exposée au regard des admirateurs et des critiques. Car Mrs. Vincey, après avoir fait quelques difficultés, s'était décidée à aller passer quelque temps avec Fred à Stone Court. C'était le seul moyen de contenter le vieux Featherstone et de surveiller Mary Garth, en qui elle voyait une bru de moins en moins désirable à mesure que Fred revenait à la santé. La tante Bulstrode, par contre, vint un peu plus souvent dans Lowick Gate voir Rosemonde, maintenant qu'elle était seule. Mrs. Bulstrode avait une sincère affection pour son frère. Elle pensait toujours qu'il eût pu faire un meilleur mariage, mais elle voulait du bien à ses enfants. Or, Mrs. Bulstrode était intimement liée de longue date avec Mrs. Plimdale. Elles avaient à peu près les mêmes goûts en matière d'étoffe, de services de porcelaine et de pasteur. Elles se confiaient mutuellement leurs petits soucis de santé et de ménage. Une certaine supériorité du côté de Mrs. Bulstrode, plus de sérieux dans le caractère, plus de respect pour l'intelligence, la possession d'une maison hors ville, donnait plus de couleur à leurs entretiens, sans pour cela nuire à leur intimité. Mrs. Bulstrode, au cours d'une des visites du matin à Mrs. Plimdale, laissa échapper qu'elle ne pouvait pas rester plus longtemps parce qu'elle allait voir la pauvre Rosemonde. « Pourquoi dites-vous « pauvre Rosemonde » ? » interrogea Mrs. Plimdale, petite femme dégourdie aux yeux ronds, ressemblant à un faucon apprivoisé. « Elle est si jolie, et elle a été élevée avec tant de légèreté. Sa mère, vous le savez, y a toujours apporté cette insouciance qui me fait si peur pour les enfants. Eh bien, Henriette, « si j'ai mon opinion à donner, » dit Mrs. Plimdale énergiquement, « tout le monde aurait cru, je dois l'avouer, que vous et Bulstrode seriez enchantés de ce qui est arrivé, car vous avez tout fait pour mettre M. Lydgate en avant. »« Que voulez-vous dire, Célina ? » fit Mrs. Bulstrode avec une naïve surprise. « Rien, mais pour ce qui regarde Ned, je dois au ciel une sincère reconnaissance. » Il serait certainement plus en état que bien d'autres d'entretenir une telle femme. Mais ce que je lui souhaite, c'est d'en chercher une ailleurs. Une mère n'en a pas moins toujours des inquiétudes. Du reste, si j'étais obligé de parler, je vous dirais que je n'ai jamais aimé voir arriver des étrangers dans une ville.
Ce n'est pas mon avis, Célina.
Monsieur Bulstrode aussi était un étranger. Abraham et Moïse étaient des étrangers dans la terre promise, et on nous enseigne à prendre soin des étrangers.
Et surtout, ajouta Mrs. Bulstrode après une courte pause, lorsqu'ils sont irréprochables.
Je ne parlais pas au sens religieux, Henriette, je parlais en mère.
Célina, vous ne m'avez certainement jamais rien entendu dire contre le mariage d'une de mes nièces avec votre fils.
Oh, c'est la vanité qui fait agir Miss Vincey. Je suis sûr que ce n'est pas autre chose.
Il n'y avait pas un jeune homme à Middlemarch assez bien pour elle.
Je l'ai entendu dire, ou à peu près, à sa mère.
Ce n'est pas là un esprit chrétien, il me semble.
Mais aujourd'hui, d'après tout ce qu'on raconte, elle a trouvé aussi fière qu'elle.
Vous ne voulez pas dire qu'il y a quelque chose entre Rosemonde et M. Lydgate, dit Mrs. Bulstrode, passablement mortifiée de sa propre ignorance.
Est-il possible que vous n'en sachiez rien, Henriette?
Oh, je sors si peu, et je n'aime pas les commérages. Je n'entends absolument rien dire.
Vous voyez tant de gens que je ne vois pas. Votre cercle est un peu différent du nôtre.
Oui, mais il s'agit de votre nièce et du grand favori de M. Bulstrode.
C'est le vôtre aussi, j'en suis sûr, Henriette.
Je pensais, il y a quelque temps, que vous l'aviez en vue pour Kate, quand elle serait un peu plus âgée.
Mais je ne crois pas, interrompit Mrs. Bulstrode, qu'il puisse rien y avoir de sérieux pour le moment.
Mon frère me l'eût certainement dit.
Eh bien, chacun juge à sa manière. Mais ce que je sais, moi, c'est que personne ne peut voir Miss Vincey et M. Lydgate ensemble sans les prendre pour des fiancés.
Toutefois, ce n'est pas mon affaire. Voulez-vous que je relève pour vous le patron des mitaines?
En sortant de cet entretien, Mrs. Bulstrode se rendit chez sa nièce avec un poids nouveau sur le cœur. Elle était fort bien mise, mais en voyant Rosemonde qui venait de rentrer et s'avançait au-devant d'elle en robe de promenade, elle ne put s'empêcher de remarquer avec une nuance d'amertume que sa nièce portait une toilette presque aussi coûteuse que la sienne.
Mrs. Bulstrode était une édition féminine et réduite de son frère. Elle n'avait rien de la pâleur et de la voix éteinte de son mari. Son regard était bon et honnête, et son langage exempt de circonlocution.
Vous êtes seule, je vois, ma chère, dit-elle en regardant gravement autour d'elle dans le salon où elles entraient ensemble.
Rosemonde devina, à n'en pas douter, que sa tante avait quelque chose de particulier à lui dire, et elles s'assirent à côté l'une de l'autre.
Cependant, la ruche intérieure du chapeau de Rosemonde était si jolie qu'il était impossible de n'en pas désirer une pareille pour Kate, et les yeux passablement aiguisés de Mrs. Bulstrode se promenaient tout en parlant sur ce charmant tour ruché.
« Je viens d'apprendre à l'instant quelque chose qui vous concerne et qui m'a beaucoup surprise, Rosemonde. »«
Qu'est-ce donc, ma tante ?» Les yeux de Rosemonde erraient sur le grand col brodé de sa tante.
« Je puis à peine le croire, que vous soyez fiancée sans que je le sache, sans que votre père m'en ait rien dit. »
Ici, les yeux de Mrs. Bulstrode finirent par s'arrêter sur Rosemonde, qui rougit vivement et dit « Je ne suis pas fiancée, tante. »
« Comment se fait-il donc que tout le monde le dise, que ce soit l'entretien de toute la ville ?»«
L'entretien de toute la ville, ce n'est pas grand-chose, je pense, » dit Rosemonde, intérieurement ravie.
« Oh, ma chère, faites attention. Ne faites pas fi de vos voisins. Souvenez-vous que vous venez d'avoir 22 ans et que vous n'aurez pas de fortune. Votre père est hors d'état, j'en suis sûr, de vous faire une dot. »
Monsieur Lydgate est très versé dans les travaux intellectuels et plein de moyens. Je sais que cela a beaucoup d'attrait.
J'aime beaucoup moi-même à causer avec ces hommes-là, et votre oncle en fait grand cas.
Mais sa profession dans cette ville, c'est quelque chose de bien maigre.
Sans doute il ne faut pas s'attacher uniquement aux intérêts de cette vie. Mais il est également rare qu'un médecin ait des convictions religieuses. Il a l'intelligence trop fière. Et vous, de votre côté, vous n'êtes pas faite pour épouser un homme pauvre.
Monsieur Lydgate n'est pas un homme pauvre, ma tante. Il a de très hautes relations de famille.
Il m'a dit lui-même qu'il était pauvre. Cela vient de son habitude de voir des gens qui vivent sur un grand pied. « Ma chère Rosemonde, vous ne devez pas songer à vivre sur un grand pied. » Rosemonde baissa les yeux et se mit à jouer avec son réticule. Ce n'était pas une jeune fille violente, et elle n'avait jamais de réponse tranchante, mais elle avait bien l'intention de vivre comme il lui plairait. « Ainsi c'est donc vrai, » dit Mrs. Bulstrode, en regardant gravement sa nièce. « Vous pensez à M. Lydgate. Il y a quelque chose entre vous sans que votre père le sache. Soyez franche, ma chère Rosemonde. M. Lydgate vous a demandé en mariage ?» Rosemonde éprouvait un sentiment très pénible. Elle avait toujours été parfaitement tranquille sur le sentiment qu'elle inspirait à Lydgate et sur ses intentions. Mais maintenant que sa tante lui posait la question, elle souffrait de ne pouvoir répondre oui. Son orgueil en était blessé, mais son empire ordinaire sur elle-même lui vint en aide. « Je vous prie de m'excuser, tante. C'est un sujet dont je préférerais ne pas parler. Vous ne donneriez pas votre cœur à un homme sans la certitude de l'épouser, je veux le croire, ma chère. Et songez aux deux excellents partis que vous avez refusés, je le sais. Et il y en a un qui est encore tout à votre portée, si vous ne persistez pas à le rejeter. J'ai connu une jeune fille d'une très grande beauté qui a fini par se très mal marier en agissant ainsi. M. Ned Plimdale est un gentil jeune homme. Il y a des gens qui le trouveraient de belle mine. Il est fils unique, et une grande affaire comme la leur vaut bien mieux qu'une profession libérale. Non pas que le mariage soit tout. Je voudrais vous voir chercher d'abord le royaume de Dieu. Mais une jeune fille devrait toujours rester maîtresse de son cœur. Si cela était, je ne le donnerais certainement jamais à M. Ned Plimdale. Je l'ai déjà refusé. Si j'aimais, j'aimerais du premier coup. Et mon amour ne changerait jamais, dit Rosemonde, avec le sentiment de jouer avec grâce son rôle d'héroïne de roman. Je vois ce qu'il en est, ma chère, dit Mrs. Bulstrode d'une voix mélancolique, en se levant pour sortir. Vous avez laissé votre cœur se donner sans rien recevoir en retour. Pas du tout, ma tante, dit énergiquement Rosemonde. Alors, vous êtes donc bien convaincue que M. Lydgate a pour vous un sérieux attachement ? Les joues de Rosemonde brûlaient d'une rougeur persistante, et elle se sentait profondément mortifiée. Elle préféra se taire, et sa tante se retira d'autant plus convaincue de la vérité de l'histoire. Dans les choses indifférentes et du monde, M. Bulstrode était disposé à faire ce que sa femme souhaitait, et cette fois, sans lui donner ses raisons, elle le pria de tâcher de découvrir, à la première occasion, dans un de ses entretiens avec Lydgate, si ce dernier avait l'intention de se marier bientôt. Le résultat de cette enquête fut négatif. En répondant à toutes les questions contradictoires de sa femme, M. Bulstrode montra bien que Lydgate n'avait pas parlé comme un homme qui aurait quelque attachement devant se terminer par un mariage. Dès lors, Mrs. Bulstrode sentit qu'elle avait un devoir sérieux à remplir, et elle se ménagea bientôt un tête-à-tête avec Lydgate, dans lequel elle passa, de ses questions sur la santé de Fred Vincey et de l'expression de son intérêt sincère pour la nombreuse famille de son frère, à des remarques générales sur les dangers auxquels leur établissement dans le monde expose les jeunes gens. Les jeunes hommes, dit-elle, tombaient souvent dans le désordre, vous causaient de gros ennuis, et vous récompensaient bien mal de tous les sacrifices d'argent qu'on avait fait pour eux. Et quant à une jeune fille, elle était exposée à bien des incidents qui pouvaient mettre obstacle à ses projets d'avenir. « Surtout si elle est remplie d'attrait, et que ses parents voient beaucoup de monde, » dit Mrs. Bulstrode. « Les hommes ont des attentions pour elle, l'accaparent pour le seul plaisir du moment, et cela éloigne d'autres prétendants. Je trouve que c'est assumer une lourde responsabilité, M. Lydgate, que de mettre obstacle aux perspectives d'avenir d'une jeune fille. » Ici, Mrs. Bulstrode fixa ses yeux sur lui, avec une intention évidente d'avertissement, sinon de blâme. Certainement, fit Lydgate en la regardant, peut-être même en la fixant un peu à son tour. D'un autre côté, il faut qu'un homme soit un bien grand fat pour s'imaginer qu'une jeune fille ne pourra recevoir ses attentions sans s'éprendre de lui, ou sans le donner à croire aux autres. Oh, monsieur Lydgate, vous connaissez très bien vos avantages. vous savez que nos jeunes gens d'ici ne pourraient rivaliser avec vous. En fréquentant assidûment une maison, vous pouvez rendre très difficile, sinon même impossible, l'établissement d'une jeune fille et l'empêcher d'accepter les demandes qui se présentent. Lydgate fut moins flatté de la reconnaissance de ses avantages sur les Orlando de Middlemarch qu'ennuyé de l'intention facile à deviner de Mrs. Bulstrode. Quant à elle, satisfaite d'avoir mis dans son langage toute l'énergie et toute l'habileté nécessaires, ne doutant pas d'avoir été comprise, elle détourna la conversation. Les proverbes de Salomon nous disent qu'un palais malade ne trouve partout que grossière farine d'orge. Ils auraient pu nous dire que, de même, une conscience mal à l'aise croit partout surprendre des insinuations. Quand, le lendemain, M. Fairbrother, prenant congé de Lydgate dans la rue, lui dit qu'il se rencontrerait sans doute le soir chez Vinci, « Non, répondit brièvement Lydgate, il avait à travailler. Il renoncerait désormais à sortir le soir. » « Ah, vous allez vous attacher au mât, hein? Et vous êtes en train de vous boucher les oreilles, dit le vicaire. Eh bien, si vous ne voulez pas vous laisser séduire par les sirènes, vous avez raison de prendre vos précautions à temps. » Quelques jours auparavant, Lydgate n'aurait rien vu de plus dans ses mots que la façon habituelle de s'exprimer du vicaire. Mais ils lui semblèrent aujourd'hui renfermer une insinuation, de nature à le confirmer dans l'idée qu'il avait agi vraiment à l'étourdi et qu'on avait pu se méprendre sur ses intentions. Non pas Rosemonde, pensait-il. Elle avait pris tout cela aussi peu sérieusement que lui-même. Pour tout ce qui regardait les rapports de société, elle était douée d'une finesse et d'un tact exquis. Mais les gens au milieu desquels elle vivait n'étaient que des lourdeaux et des fâcheux. L'erreur, du moins, n'irait pas plus loin. Il tint sa résolution de ne plus aller chez M. Vinci que pour affaires. Rosemonde devint très malheureuse. La contrariété qu'avait commencé à éveiller en elle les questions de sa tante alla croissant, et croissant jusqu'à devenir, au bout de 10 jours, pendant lesquels elle ne vit pas Lydgate, une véritable terreur, à la pensée du néant qui allait peut-être se creuser devant elle, pressentiment de cette éponge fatale toujours prête à effacer à si bon marché les espérances humaines. Le monde revêtirait pour elle une tristesse nouvelle, comme un désert dont les charmes d'un magicien n'auraient fait un jardin que pour un instant. Dans cette initiation à la douleur de l'amour déçu, elle sentait que pour nul autre homme, désormais, elle ne pourrait plus élever de ces délicieuses et aériennes constructions imaginaires comme celles qui l'avaient enchantée pendant ces 6 derniers mois. La pauvre Rosemonde en perdit l'appétit. Elle se sentait abandonnée comme Ariane, une charmante Ariane de comédie, délaissée sur la route, avec toutes ses malles remplies de toilettes et sans espoir de trouver un fiacre. Il y a, de par le monde, différentes mixtures merveilleuses qui sont toutes également appelées amour et réclament le privilège des sublimes transports, excuses dans la littérature et au théâtre, de tous les actes possibles. Rosemonde ne songea, heureusement, à commettre aucun acte de désespoir. Elle lissa ses cheveux blonds aussi admirablement que de coutume et garda un calme plein de fierté. Ce qu'elle pouvait supposer de moins pénible en ce moment, c'était une intervention quelconque de sa tante Bulstrode en vue d'empêcher les visites de Lydgate. Tout valait mieux que de l'indifférence de sa part. Tous ceux qui s'imaginent que 10 jours sont un laps de temps trop court, non pas pour tomber dans l'amaigrissement, le dépérissement ou autres effets palpables de la passion, mais pour parcourir tout le cercle spirituel des conjectures, des alarmes et de la déception, cela ignore ce qui peut se passer dans les loisirs élégants de l'âme d'une jeune lady. Le 11e jour, pourtant, lorsque Lydgate quitta Stone Court, Mrs. Vinci le pria de faire savoir à son mari qu'il s'était produit un changement marqué dans l'état de M. Featherstone et qu'elle l'engageait à venir à Stone Court le jour même. Lydgate aurait pu aller trouver M. Vinci à son bureau ou laisser quelques lignes à sa porte. Ces simples moyens ne lui vinrent pas apparemment à l'esprit, d'où nous pouvons conclure qu'il n'avait pas une forte répugnance à se présenter chez M. Vinci à une heure où celui-ci n'était pas chez lui, et à s'acquitter de sa commission auprès de sa fille. Un homme peut sans doute, pour plus d'un motif, priver les autres de sa compagnie. Mais le plus sage lui-même ne serait peut-être pas flatté de n'être regretté de personne. Ce serait une manière toute trouvée de substituer élégamment de nouvelles habitudes aux anciennes que d'échanger avec Rosemonde quelques propos légers sur son renoncement à la dissipation, sur sa ferme résolution de s'imposer de longs jeûnes, sevrés de tous accents mélodieux. Les réflexions du premier moment sur les causes qui avaient pu amener les allusions de M. Bulstrode s'étaient peu à peu perdues, il faut l'avouer aussi, comme un fin réseau de cheveux emmêlés dans le tissu plus substantiel de ses pensées. Miss Vincey était seule. Elle rougit si fort en voyant entrer Lydgate qu'il éprouva un embarras correspondant et qu'au lieu d'entamer avec elle la conversation sur un ton badin, il lui parla aussitôt du motif qui l'amenait et la pria d'un air cérémonieux de vouloir bien transmettre le message à son père. Rosemonde, dont la première impression avait été que son bonheur lui revenait, fut amèrement froissée des manières de Lydgate. Sa rougeur avait disparu. Elle se chargea froidement de la commission, sans ajouter une parole inutile et sans quitter des mains un petit ouvrage au crochet qui lui permettait de ne pas regarder Lydgate plus haut que le menton. Dans toutes les fautes, le commencement est certainement la moitié du tout. Après être resté assis un long moment à jouer avec sa cravache sans savoir que dire, Lydgate se leva pour partir, et Rosemonde, toute nerveuse de la lutte que se livraient en elle la mortification et le désir de ne pas se trahir, laissa dans son saisissement tomber son ouvrage et se leva aussi machinalement. Lydgate se baissa pour ramasser le crochet. Il se trouva, en se relevant, très près d'un adorable petit visage posé sur un long cou blanc qu'il avait été habitué à voir obéir aux mouvements onduleux les plus parfaits d'une grâce sûre d'elle-même. Mais lorsqu'en ce moment il leva les yeux, il y vit comme un tremblement de désespoir qui le toucha d'une façon toute nouvelle. Son regard, comme un éclair, interrogea Rosemonde. Elle était à cet instant-là aussi naïve, aussi naturelle qu'elle l'avait jamais été quand elle n'avait que 5 ans. Elle sentait que les larmes lui étaient venues aux yeux et qu'elle eut enfin essayé de faire autre chose que de les y laisser, comme des gouttes d'eau posées sur une fleur bleue, ou de leur permettre de descendre le long de ses joues comme elle voudrait. Ce moment de sincérité fut comme le fin contact d'une plume qui détermine la cristallisation. De ce qui n'était qu'une coquetterie, il fit de l'amour. Rappelez-vous que l'homme qui contemplait ces « ne m'oubliez pas » sous leur rosée avait le cœur très prompt et très chaud. Il ne sut jamais ce que devint le petit ouvrage qu'il avait ramassé. Une idée venait de traverser tous les replis de son cœur, une idée dont l'effet miraculeux fut de réveiller en lui la puissance de l'amour passionné qui y sommeillait enseveli, non pas dans un sépulcre fermé, mais sous le tertre le plus mince, le plus facile à percer. Les mots qu'il lui adressa étaient brusques et saccadés, mais l'accent dont il les prononça les fit résonner comme un ardent et suppliant aveu. « Qu'y a-t-il? Vous avez de la peine. Dites-moi ce que c'est, je vous en prie. » Jamais encore pareil accent ne s'était adressé à Rosemonde. Comprit-elle les mots qu'il venait de lui dire? Je n'en sais rien. Mais elle regarda Lydgate, et les larmes tombèrent le long de ses joues. Quelle réponse aurait pu valoir ce silence? Un élan de tendresse s'empara de Lydgate, illuminé de la conviction soudaine que le bonheur de cette jeune et douce créature dépendait de lui. Oubliant tout le reste, il l'entoura de ses bras, d'une étreinte à la fois protectrice et compatissante. Il avait l'habitude d'être compatissant avec les faibles et les malheureux, et il baisa chacune des 2 grosses larmes. C'était une singulière façon, mais en tout cas une façon expéditive d'arriver à une explication. Rosemonde ne se fâcha pas, elle se recula seulement un peu, remplie d'un timide bonheur, et Lydgate, s'asseyant à côté d'elle, put enfin lui parler plus clairement. Rosemonde eut à faire sa petite confession, laissant échapper sans compter, sous l'impulsion qui la dominait, des mots de gratitude et de tendresse. Au bout d'une demi-heure, quand Lydgate quitta la maison Vincey, c'était un homme lié pour la vie. Son âme ne lui appartenait plus, mais à la femme à laquelle il s'était engagé. Il revint dans la soirée pour parler à M. Vincey, qui venait de rentrer de Stone Court, avec la certitude qu'il ne tarderait pas à apprendre le décès de M. Featherstone. L'heureux mot de « décès » qui lui était venu si à propos à la pensée avait animé et monté ses esprits plus haut que leur niveau ordinaire du soir. Le mot juste est toujours une force. Il communique à nos actions son caractère déterminé. Envisagé comme un décès, la mort du vieux Featherstone prenait un aspect exclusivement légal, si bien que M. Vincey pouvait y penser tout en tapotant sa tabatière, sans perdre de sa joviale humeur, sans avoir même à manifester aucune affectation intermittente de solennité, et M. Vincey détestait également la solennité et l'affectation. A-t-on jamais vu quelqu'un atterré de la mort d'un testateur dont il hérite, ou chanter un hymne funèbre sur le titre que lui assigne une propriété? M. Vincey était ce soir-là disposé à considérer toute chose à un point de vue jovial. Il fit même remarquer à Lydgate qu'après tout, Fred avait hérité de la constitution physique de la famille et serait bientôt redevenu le beau garçon d'avant sa maladie. Et quand on lui demanda son consentement aux fiançailles de Rosemonde, il le donna avec une étonnante facilité, passant immédiatement à des considérations générales sur les agréments du conjungo pour les jeunes gens et les jeunes filles, et déduisant apparemment de tout cela la nécessité d'absorber une plus forte dose de punch.